sont des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
factualité,
c'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi à 15h,
et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4.
Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour la deuxième partie de l'émission Factualité, l'émission des étudiants de l'UVSQ. Alors Marvin, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors moi je voudrais vous parler de l'Écosse qui a proposé un nouveau référendum sur la question du Brexit. Alors en septembre 2014, on se souvient, il y avait déjà eu un vote pour l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni qui a été rejeté à 52%. Le problème, 52% voulait sortir de l'Union européenne, mais parmi ces 52%, il y a 62% des Écossais qui ont souhaité rester, eux, dans l'Union européenne. Alors, ils ont soumis, en la personne de Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, une proposition de référendum à l'Angleterre. Et le 15 mars dernier, Theresa May, la première ministre britannique, a rejeté la proposition du référendum. Elle a stipulé notamment qu'il était important pour le Royaume-Uni de se concentrer uniquement sur les négociations avec l'Union européenne sur la question du Brexit. Réaction immédiate de l'Écosse, un scandale démocratique selon la première ministre écossaise qui souhaite rappeler que la décision revient au Parlement écossais et non à Downing Street. Downing Street, c'est le cabinet du Premier ministre. Donc selon Le Monde, Theresa May entraîne l'Écosse hors de l'Union européenne contre son gré. Et les Écossais ne manquent pas de lui rappeler que 62% ont voté contre la sortie de l'Union européenne. Pour la première ministre écossaise, le référendum de 2014 est donc caduc car les conditions ont depuis changé. Il y a notamment sur le Huffington Post une vidéo de la déclaration de la ministre écossaise qui est très intéressante. Elle est en anglais mais sous-titrée en français et je convie tout le monde à aller la regarder. Voilà, c'est tout pour ma chronique. N'hésitez pas à aller voir la déclaration de la première ministre écossaise sur le site de l'Huffington Post. Merci beaucoup.
Merci Marvin. Eh bien, on peut dire que l'Écosse monte sur ses grands chevaux. Tiens, Mathilde, parlant de chevaux, toi qui es experte en la matière, qu'as-tu à nous apprendre sur les chevaux ?
Alors, je vais vous apprendre un truc de ouf. Vous vous foutez pas de ma gueule, parce que je vous vois venir. Mais l'équitation rend les enfants plus intelligents. Donc, ça vient pas de moi. C'est une étude menée par des chercheurs japonais. Et donc cette étude montre qu'en plus des bienfaits connus de l'équitation sur le développement des enfants, elle atteste que l'équitation, et plus précisément les vibrations du cheval, active le système nerveux et permet aux enfants de résoudre plus facilement des problèmes mathématiques. Cette étude a été faite sur 34 garçons et 72 filles, ce qui est logique vu qu'il y a plus de filles qui pratiquent l'équitation que de garçons. Ces enfants sont âgés entre 10 et 12 ans. Du coup, les enfants ont alterné entre équitation et problèmes de maths. Et les enfants qui ont fait de l'équitation avant ont eu de meilleurs résultats aux tests de maths. Les chercheurs ont remarqué que l'équitation provoquait une meilleure santé mentale, d'où les résultats en maths. Ainsi, faire de l'équitation permet non seulement de réduire le stress, de s'ouvrir aux autres plus facilement, mais aussi de développer une confiance en soi énorme. J'invite donc tous les parents à inscrire leurs enfants à faire du cheval.
Des réactions autour de... Oui, Marvin.
Pourquoi spécifiquement entre 10 et 12 ans, il y a une raison ou absolument pas ?
Je pense que c'est parce que c'est l'âge où les enfants font le plus de l'équitation.
Où il y avait un bon nombre de... Ouais. D'accord, ok. Mmh. Merci.
Merci Mathilde. On sait maintenant que monter sur un cheval, ça rend intelligent. Eh bien, chausser des skis, qu'est-ce que ça fait, Maud ?
Eh bien, ça ne rend pas aussi intelligent que le cheval, étant donné qu'il y a beaucoup de bosses et qu'on perd des neurones. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus belles descentes à ski du monde, et surtout la plus longue. De quoi s'agit-il, selon vous ?
Truc blanc, là.
C'est la Vallée Blanche.
Exactement. Il s'agit de la Vallée Blanche à Chamonix, et je vais vous en parler parce que j'ai eu la chance de la faire ce week-end. Donc d'abord quelques chiffres, on y accède par le deuxième plus haut téléphérique du monde, on atterrit à 3812 mètres d'altitude et on a un accès à un itinéraire hors-piste de plus de 20 km, donc ce qui est vraiment énorme. Le parcours est juste incroyable, on descend les glaciers du Géant, du Tacul et de la mer de glace entourés du Mont Blanc, de l'aiguille du Midi, etc. Donc c'est vraiment assez surréaliste et on est quasiment seul au milieu de nulle part avec de la neige à perte de vue. Ce n'est pas vraiment difficile en soi, surtout le parcours classique, tout en sachant que si le parcours classique est trop simple pour vous, vous avez la possibilité de faire un parcours plus complexe. Mais dans tous les cas, il est vraiment important d'être bien accompagné d'un guide, car la Vallée Blanche a beaucoup de crevasses, donc, qui font malheureusement plusieurs morts chaque année. Pour ma part, j'ai trouvé ça plus flippant finalement que difficile, alors que j'ai pourtant pas un très bon niveau de ski. Ça prouve que c'est assez accessible. La seule chose qui m'angoissait beaucoup, c'était l'arrêt du début que l'on doit descendre en cordée, avec le vide des deux côtés, donc c'est très flippant. Mais c'est finalement pas si terrible si on a de bons crampons et un guide sympathique qui vous rassure, comme c'était mon cas. Le plus dur est vraiment, et de loin, les 380 marches qui nous attendent à la fin de la vallée et qu'il faut monter pour accéder aux télécabines puis au petit train du Mont-en-Vert. Parce que normalement, on peut descendre jusqu'à Chamonix en ski, mais il n'y avait pas assez de neige, donc on est obligé de s'arrêter au Mont-en-Vert. C'est juste horrible, donc c'est 380 marches très pentues, métalliques, qu'il faut monter avec son sac à dos, ses skis, ses bâtons, tout en sachant qu'on a plusieurs heures de ski dans les pattes, donc on y use clairement nos dernières forces. Mais en résumé, c'est vraiment top et c'est un itinéraire unique. Chaque année, environ 80 000 skieurs se font plaisir en descendant la Vallée Blanche pendant environ 4 heures. Mais ça peut être plus ou moins long en fonction des pauses. Ça comprend aussi les explications de sécurité du guide, le temps de trajet dans les bennes pour atteindre l'aiguille du Midi, une pause bien sûr sur la terrasse du Mont Blanc pour admirer la magnifique vue et bien entendu l'ensemble de la descente. Donc c'est une descente sublime et un passage incontournable pour tous les passionnés de ski. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la Compagnie des Guides de Chamonix. Des questions ?
Ça dure combien de temps à peu près ?
Alors on dit que ça dure entre 4 et 6 heures. Ça dépend vraiment voilà, des pauses, etc.
Non mais j'ai une question, tu l'as fait ce week-end cette descente ? Mais oui. Tu peux la faire c'est pendant la période juste hivernale. C'est pas une descente où tu fais, c'est pas réservé, enfin le hors-piste n'est pas réservé juste pour un week-end.
Non, pas du tout. Ouais. C'est pendant toute la période hivernale. Par contre, ça demande des conditions météo vraiment impeccables, quoi. Okay. Parce que justement, vu qu'il y a des crevasses et que c'est un itinéraire, donc il fait 24 km. On peut pas toujours tous les faire. Là, moi, je crois que j'ai fait 20 km du coup jusqu'au Mont-en-Vert. Mais il y a aucun moyen de remonter ou quoi. Donc c'est-à-dire que si on est au milieu et que il fait un temps pourri, on est mal. Donc c'est vraiment extrêmement réglementé et il faut vraiment qu'il fasse un temps parfait.
Eh bien, merci Maud de nous avoir fait partager cette découverte hivernale. Passons maintenant à Caro. Caro, tu vas nous parler d'une découverte musicale, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un coup de cœur. Et c'est rare que j'ai un coup de cœur musical, mais pour le coup, c'est un véritable coup de cœur. Et une fois n'est pas coutume, nous allons mettre à l'honneur un ancien de factualité. Il s'agit de Kevin, car oui, nous ne sommes pas à la première génération. Reconnu pour son absentéisme, il fait aussi et surtout partie d'un groupe rempli de potentiel, à mon sens. Ce groupe, c'est les AU, donc AU en français. Ce que je préfère dans leur groupe, c'est l'explication de leur nom, car j'ai pu leur demander. Et ils m'ont expliqué qu'ils ont choisi ce nom, car à l'oreille, cela sonne comme « Hey you », donc « Et toi » en français. C'est plutôt subtil, mais en réalité, chacun a son explication. Ce nom vient aussi du fait que Hey You désigne un morceau des Pink Floyd qui nous inspire tous selon eux, c'est leur propos. Quoi qu'il en soit, personnellement, je vous laisse écouter un court extrait pour vous rendre compte du talent des Hey You. The time has come for me to play the game. The time has come for me to play. This day comes to Alors, ce que vous venez d'écouter, c'est The Game, un très court extrait. Donc, c'est une musique plutôt calme, mais ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils font des musiques aussi bien calmes pour ceux qui préfèrent, ou un petit peu rythmées. Donc, ce groupe composé de 5 garçons a tout d'un boys band. Ils sont jeunes, ils sont beaux, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est possible d'entendre une véritable maturité dans leur production. Un point commun, finalement, réunit cette bande, c'est le talent et l'amitié. Comme la plupart des groupes. Donc Quentin, le pianiste, est ami avec le guitariste Tom depuis des années. Se sont ensuite greffés Thibaut au chant, d'ailleurs personnellement je trouve qu'il chante merveilleusement bien, Vincent en tant que guitariste lead et enfin Kevin à la batterie. Tous ont le point commun évidemment d'être passionnés par la musique depuis de nombreuses années. Alors ils se définissent eux-mêmes comme un groupe rock alternatif. Leur musique s'inscrit dans une pop anglaise revisitée, mêlant énergie et touche mélancolique. Ils ont su mêler leur esprit créatif pour créer des morceaux déjà reconnus et applaudis, puisqu'il faut savoir qu'ils ont déjà joué dans plusieurs salles françaises, et notamment à la Boule Noire à Paris ou encore à la Cigale.
Donc La Cigale, c'est quand même assez reconnu. Donc vous pouvez retrouver tous leurs morceaux, les photos de leurs concerts et surtout leurs lives qui sont absolument géniaux. Et les dates de leurs prochains concerts sur plusieurs supports et notamment sur leur site, donc a-u-officiel.com, sur Facebook, sur leur page officielle a-u et surtout sur YouTube, sur la chaîne du même nom. Donc vous retrouverez tous les liens Facebook, YouTube et tout ce qui est nécessaire, leur description, les photos si vous voulez voir leur visage, sur leur site officiel. Donc vous l'aurez compris, pour ma part, je ne cesse d'écouter leur album en boucle et on ne peut leur souhaiter que le meilleur pour la suite, en tout cas je l'espère. Donc j'ai dû faire court, mais aller vraiment découvrir ce groupe et découvrir ces 5 musiciens sexy sur scène. En attendant, je vous laisse avec un de leurs morceaux qui a fait l'unanimité au studio, il s'agit de In the Night.
You like it all, but you got the rest.
Merci Caroline pour cette découverte du groupe Ayou. Alors, on a parlé de groupe, mais Zino et Antoine, vous allez vous aussi nous parler de groupe, de football, c'est ça?
C'est exactement ça. Puisque la semaine de football a été marquée par la seconde vague des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, au cours de ces matchs, se sont qualifiés Monaco, la Juventus, l'Atlético Madrid et Leicester, qui rejoignent donc le Barça, le Bayern, le Real et Borussia. Et nous, avec Zino, on va revenir sur deux de ces matchs qui nous ont marqués, de par leur scénario et leur rebondissement surtout. Ouais. À commencer avec le match de Monaco.
Oui, la victoire de Monaco. Moi, personnellement, j'ai été assez surpris car j'y croyais pas vraiment. Car en face, c'était Manchester City, un club qui est très performant dans son championnat et en général dans les compétitions européennes. Et Monaco a su bien gérer le match,
Ouais, non, mais faut rappeler le scénario. Faut rappeler que Monaco était mené, avait perdu le match aller 5-3.
C'est ça.
Et du coup, ils avaient l'obligation de marquer, surtout de se prendre très peu de buts. Ce qu'ils ont fait, puisque le score a été 2-3-1 pour eux, ce qui leur a qualifié.
C'est ça, et on remercie aussi un grand Mbappé qui a son habitude, qui en ce moment est très performant, a réussi à qualifier son équipe, qui est toujours présent à tous les matchs de Monaco dernièrement, et c'est vraiment un joueur à suivre.
Mbappé, donc, c'est un jeune footballeur français de 18 ans qui émerge pendant cette saison, qui explose, il a des stats folles, et on parle déjà de lui, alors ça comme souvent quand il est jeune, mais comme le futur Thierry Henry de par le fait qu'il soit à Monaco et son jeu. Et pour revenir sur le match, il faut quand même parler de cette première mi-temps qui était juste parfaite de la part de Monaco, qui venait 2-0. Ils ont eu une maîtrise totale du jeu. Et la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée, mais grâce à un coup de pied arrêté, à une détermination folle, ils sont parvenus à se qualifier.
Et il y a aussi une autre surprise de ces huitièmes de finale, la qualification de Leicester. C'est vrai qu'au début de la compétition, personne ne les attendait en quart de finale, et pourtant, ils ont su faire la différence face
à Séville.
Au FC Séville. Mais ils ont eu du mal car... D'une part, ce sont des défensifs qui ont marqué les deux buts, Drinkwater et Morgan. Et d'autre part, Nzonzi a loupé un penalty en fin de match, c'est ça?
Ouais, là aussi, le scénario était assez fou, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont perdu le match avec 2-1, et ils avaient obligation de remonter le match. Et donc du coup, après avoir mis deux buts, ils obtiennent un penalty contre eux à la 80e, donc tout le monde pense à la prolongation, mais Nzonzi loupe le penalty. Et voilà, une nouvelle fois, Leicester ont fait leur montade à eux. Un scénario fou.
C'est ça.
Voilà, c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions, c'est les beaux matchs comme ça.
Et toi, Antoine, tu voulais revenir sur la qualification de Lyon en Europa League?
Oui, juste deux petits mots, puisque jeudi a aussi lieu les huitièmes de finale de Ligue Europa. Et alors, malgré une défaite 2-1 au Stade Olimpico, Lyon a assuré sa qualification grâce à son succès au match aller 4-2. Un match très stressant pour tous les supporters, parce que lorsqu'on est mené 2-1 et qu'on ne peut pas se prendre un but pendant une demi-heure et que ça pousse, je peux dire qu'on est derrière sa télé, souvent on est énervé. Mais bon, c'est passé, donc voilà, je suis content. Et donc il y a un autre événement qui a eu lieu cette semaine, c'est la liste de Didier Deschamps, jeudi, pour les matchs face au Luxembourg, donc match de qualification pour la Coupe du Monde, et face à l'Espagne, un match amical. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette liste?
Alors c'est surtout que la liste est jeune, de nouveaux joueurs qui émergent, comme Mbappé justement,
dont on parlait,
Tolisso, Rabiot, Thauvin et Kimpembe qui rejoignent les rangs de l'équipe de France. Donc que de bonnes surprises, Mbappé on l'attendait un peu, Kimpembe qui a fait un très bon match lors du match aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Donc ce sont de très bonnes recrues je trouve pour les futures compétitions de l'équipe de France.
Bien, merci les garçons pour cette actu footballistique et c'est ainsi que l'émission se termine. Merci à l'UVSQ, Marmite FM, Nouradine et Fred à la technique de nous permettre de nous exprimer chaque semaine. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter en masse sur Marmite FM. Ça nous fait plaisir. Je vous rappelle que Factualité est présent sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à visiter notre page Facebook Factualité UVSQ et notre compte Twitter Factualité78. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de chroniques et d'animateurs. D'ici là, n'oubliez pas, restez
cultivés. Factualité.
L'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac.
Bon plan étudiant.
Chronique.
Débat.
Coup de gueule.
Clash.
Rubrique culinaire.
Factualité.
C'est tous les samedis à 10h.
Le mardi à 15h.
Le jeudi à 15h.
Et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4.